À voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Agnès Varda, disparue en mars dernier. En 2003, Antoine Guillot s'entretenait avec la réalisatrice. Ce soir, la leçon de cinéma.
Bonjour Agnès Varda.
Bonjour Antoine Guillot.
Nous sommes ici chez vous, rue Daguerre, pour commencer une semaine d'avoir nu assez particulière. Assez particulière parce qu'elle est entièrement consacrée au Festival de Cannes et puis parce que dès mercredi, nous serons en direct à Cannes du 56e Festival. Mais alors, qu'est-ce que vous venez faire à Cannes? Vous n'avez pas de film en compétition cette année? Vous venez pourquoi? Comme spectatrice?
Ben, quand Laura Adler m'a demandé, ça m'a amusé parce que j'aime assez bien faire les choses dont j'ai pas l'habitude. Je ne viendrai pas à Cannes dès le début, puisqu'il y a deux semaines de festival, et je ne viendrai qu'au milieu de la seconde. Et ça m'amuse assez, effectivement, de parler de ce festival, car je crois que c'est un lieu qui met en place un éclatement du cinéma. C'est pas seulement parce que c'est le plus grand festival, c'est connu, mais c'est parce que, à l'occasion du Festival de Cannes, il y a mille choses. Il y a des étrangers qui viennent, on parle de cinéma, il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup d'articles, il y a des livres. Par exemple, le dernier numéro là qui vient de sortir des Cahiers du cinéma donne très envie de voir les films qui sont à Cannes. Le film français vient de sortir avec le programme. Le Monde en parle, tout le monde en parle avant même que ça commence. Et cette agitation cinéma peut se vivre sans y aller. Donc j'ai accepté ce jeu, ce défi d'essayer de parler de Cannes. Et j'ai même poussé plus loin le défi, puisque de toute façon, je ne peux pas être d'actualité, je ne peux pas voir les films, je ne peux pas, comme les journalistes, me jeter à 8h30 du matin, voir tous les films pour pouvoir en parler à midi, etc. Donc j'ai eu l'idée de vous parler d'une autre journée, d'un autre festival de Cannes. J'ai choisi, c'est pas tout à fait innocent, hein, le mercredi 17 mai de l'an 2000.
Alors, pourquoi le mercredi 17 mai? C'est une journée particulière?
Oui, oui, vous reprenez le titre de Scola, qui avait été d'ailleurs un objet de grande discussion en 1977, quand il était en compétition avec Padre Padrone, et que le jury, présidé par Rossellini, était tout à fait du côté de Padre Padrone. Et Jacques Demy faisait partie de ce jury, donc il me racontait un peu les débats avec toute la discrétion nécessaire, et on n'avait pas le droit d'en parler. Enfin, bon. Bien, oui, le mercredi 17 mai 2000 était une journée particulière. Pour moi, à plusieurs titres. Les glaneurs et les glaneuses avaient été sélectionnés. Et c'était le deuxième jour de sa projection. Et c'était même rigolo parce que dans le film français qui paraît tous les jours à Cannes et qui est une sorte de bible quand on doit aller à droite ou à gauche, il y avait un petit sujet qui s'appelait « En bref ». Et on disait, ça commençait... Mille excuses à Agnès Varda, dont le film Les glaneurs et la glaneuse a été omis dans la grille des programmes de hier. Ça commençait bien, je me suis dit, j'arriverai jamais à être au milieu des choses. Je suis toujours un peu en marge, quoi. Puis ils annonçaient aussi, pour ce mercredi, ce que Gilles Jacob appelle la leçon de cinéma et que moi j'ai appelé autrement, une sorte de monologue devant un public. Bon. Donc, ce jour-là, j'avais moi-même deux petites raisons d'être à Cannes. Et puis c'est un jour plein d'événements cinéma. Il y avait dans ce même numéro, d'ailleurs, il y avait un entretien de Bernardo Bertolucci qui était le parrain de la semaine de la critique. Et il disait quelque chose que j'aime beaucoup. Chaque fois que je termine un film, je tourne une page. J'ai un besoin atroce de me remettre en cause, de me renouveler. Je trouve triste de s'imiter soi-même. J'ai toujours osé et pris des risques pour des projets par lesquels je n'étais pas forcément attiré. C'est stimulant. Et cela me donne une énergie extraordinaire. Je suis très très contente de ce qu'a dit Bertolucci.
Vous auriez pu le dire vous, parce que vous n'avez jamais fait des projets pour lesquels vous n'étiez pas inspiré.
Oui, j'aurais pu le dire, parce que j'ai accepté des films de commande ou des films qui ont été suggérés par d'autres, mais surtout parce que j'ai ce souci atroce, comme il dit, de ne pas radoter, de ne pas me répéter et de me remettre en question chaque fois. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis en train de faire des choses tout à fait différentes, même que le cinéma. Donc ça m'amuse de faire cette intrusion à Cannes. Donc, retour au 17 mai 2000. Au Festival de Cannes, il y a toutes sortes de catégories. Il y a les films de la sélection officielle, en compétition ou pas, les films de Un Certain Regard, les films de la quinzaine, ceux de la semaine de la critique. Maintenant d'ailleurs, il est parrainé par Claire Clouseau qui m'avait beaucoup aidé à rassembler de la documentation en 1975, avant même que je fasse d'une chance l'autre pas. Il y a les films du Forum, il y a les films présentés par la CID, et puis il y a le marché, le MIF, marché international du festival, qui présente des quantités de films, puisque c'est une occasion à Cannes de vendre et d'acheter. Donc c'est en même temps une vitrine des nouveautés du cinéma international et un marché, une vraie foire. Et donc ça veut dire que ce jour-là, on présentait 203 films, dont 108 pour le marché. Donc, à 8h30, il y a le film en compétition. Et ce jour-là, c'était Dancer in the Dark de Lars von Trier. Et je peux vous dire que les critiques, les vrais pros, les curieux, les fanatiques se jettent à la projection de 8h30 du matin, même s'ils ont fait la fête la veille. Et puis, Lars von Trier est précédé aussi d'une réputation très particulière. Ce jeune homme inventif, extraordinaire, est très fragile. Il ne veut pas voyager en avion, il ne veut pas voyager en train. Je ne sais pas s'il ne vient pas en camping-car pendant 15 jours. À 11h, 6 films, dont Cecil B. Demented et Les glaneurs et la glaneuse. Donc, dont c'est la deuxième projection, c'est plein à craquer. Il y a surtout des étrangers, comme c'est un documentaire, je crois que les Français sont dit, on le verra plus tard. Il y a beaucoup d'étrangers. Je ne suis pas dans la salle, mais on m'a dit que c'est très vibrant, très magnifique, beaucoup d'applaudissements. Je suis à la sortie et je suis un peu impressionnée parce que c'est toujours formidable de montrer un film à du public de pays différents. C'est ça qui me frappe à Cannes. C'est que vous n'avez pas, c'est pas une question de dire le film sort, que dit la critique française. Vous avez des gens de partout. Des gens de Corée qui connaissent mes films, d'Amérique évidemment, mais d'Afrique du Sud, d'Islande, tout ça. Et on a vraiment une sensation que, est-ce qu'un film se lit de la même façon? Certainement pas. Alors, est-ce qu'il y a quand même un dénominateur commun d'émotion, de compréhension? C'est quand même intéressant, ça. Donc, pendant qu'on montre La glaneuse, qui commence à 11h, il y a évidemment d'autres films. À 13h, pendant que se préparent les déjeuners officiels, semi-officiels, les déjeuners de business, il y a quand même 17 films qui passent au marché. 14h, ça reprend un peu, 9 films. 14h30, sélection officielle. Il n'y a que 5 films, mais il y a déjà Dancer in the Dark. Alors, il y a ceux qui veulent le voir sans se sentir obligé d'être à la grande soirée bien habillé. Yeah, c'est plein à craquer, j'ai pas besoin de vous dire. À 15h30, 19 films. Parce que là, les gens ont déjeuné, il y a de nouveau du monde. Alors, 17h, 6 films. Un de Rui Guerra, Assiel Zavida de Ripstein, et La quinzaine des réalisateurs, La chambre obscure, dans laquelle Mathieu Demy a un tout petit rôle. Ça se passe au Moyen-Âge, je crois que c'est un curé ou un... Non, c'est un balanin. 19h. Là, c'est sérieux, c'est la sélection officielle. Il y a ceux qui vont voir Kippour dans la salle de Bussy parce qu'ils n'ont pas de place pour la grande séance dans la très grande salle à 22h. Et il y a surtout l'entrée de Dancer in the Dark. Alors là, je vous dis pas, c'était extraordinaire. Parce que il y a une foule immense et il y a l'arrivée extraordinaire des deux vedettes, enfin de la grande vedette qui est Björk, délicieuse, charmante, dans une robe rose bonbon, une robe de petite fille, une robe de fée. D'ailleurs, on dirait un lampion, je dirais. Et on voit beaucoup de photos avec le regard amusé de Catherine Deneuve, qui est sublime, chic, en noir, avec une robe à paillettes, décolletée en V, et qui, avec une grande élégance d'ailleurs et générosité, a servi la soupe à Björk dans le film. Elle joue la copine, elle sert de faire valoir, elle le fait très très bien d'ailleurs. Mais là, à cette première, on voit que elle avec beaucoup de générosité, on voit elle-même qu'elle sait à quel point cette petite lutin, qui est une chanteuse remarquable et qui a fait la musique du film, hein, ce petit lutin rose, s'amuse d'être sur les marches. Alors on apprend qu'elle s'est empoignée avec Lars von Trier, que ça s'est mal passé, enfin bref. La projection se passe admirablement bien, bien sûr.
Parmi tous ces films, vous, dans cette journée-là, comment vous arrivez à voir des films? C'est aussi la journée où vous faites votre leçon de cinéma.
Alors voilà, on y arrive. Évidemment, moi, j'avais un autre souci, c'était de répondre à l'invitation de Gilles Jacob et de faire cette leçon de cinéma, qui passait donc à 14h30 dans un salon, un grand salon, et le public, ce sont des étudiants de cinéma, des curieux, des journalistes, toutes sortes de gens. Donc, ça passait en même temps que Dancer in the Dark. Gilles Jacob appelle ça une leçon de cinéma, moi je l'ai refusé complètement. J'avais même écrit un petit texte, je vais vous le lire parce que vous comprendrez comment j'ai pris cette chose. Tout en disant oui, j'ai toujours envie de rire quand on me propose un honneur, un titre, une estrade, une carte blanche ou une carte postale. Quand Gilles Jacob m'a demandé d'être, après quelques cinéastes de renom, la donneuse de leçons du cinéma du Festival de Cannes 2000, cela m'a flatté, certes, mais je me suis aussitôt souvenu de Salvador Dali, invité à donner une conférence à la Sorbonne, du temps où mon premier film allait bientôt sortir dans une seule salle. C'est donc en 1954. Il était arrivé dans une Rolls-Royce décapotable, remplie de choux-fleurs. C'est en pensant à Dali que j'ai accepté de bon cœur. Virtuellement, j'arriverai jusqu'au palais dans une Cadillac rose décapotable, emplie de melons. Et sur la table cache-jambe de la salle des ambassadeurs, on aura posé une carafe d'eau citronnée sur une nappe de feuilles d'acanthe et de mimosa. Quant à une leçon, je me sens incapable d'en donner, mais s'il y a quelques personnes pour m'écouter, je causerai bien volontiers ou dialoguerai avec les ci-devant personnes. Parler de cinéma, de celui que je fais et de celui que j'aime, m'est toujours un plaisir. Donc, j'avais par ce petit texte annoncé la couleur. J'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, il n'y avait pas de feuilles d'acanthe sur la table, il n'y avait pas de mimosa. Il y avait une bouteille d'eau, mais elle n'était même pas citronnée. Et j'avais comme partenaire, interlocuteur, le sémillant, brillant et rigolo Gérard Lefort. On s'était rencontrés le matin, on avait un petit peu parlé. Je lui avais dit, écoute, je ne sais pas trop ce que je vais dire, alors je vais m'entourer de garde-fous et de protection. J'étais donc arrivée avec une petite valise de livres. Je les ai tous disposés sur la table. Je n'avais pas forcément l'intention d'en lire des extraits, mais il y avait plusieurs livres de Nathalie Sarraute, de Bachelard, de Buñuel, de Michaud et La Fontaine. Je pourrais dire que ce sont des protecteurs pour moi, par leur intelligence ou leur talent ou tout ce qu'ils ont pu dire ou écrire. J'avais aussi amené une petite montre que j'ai posée sur la table pour essayer d'être dans les temps. Et puis, ce petit oiseau. Et voilà. C'est un petit oiseau qui ne chante que quand on le touche. Et je me suis dit, chaque fois que je serai en panne, entre deux idées, le temps que je rassemble un peu ma tête, parce que j'avais rien écrit, je ferai jouer le petit oiseau. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, parmi les choses que j'ai dites concernant le cinéma, celui que je fais, celui que j'aime, je n'ai pas pu m'empêcher de lire et de citer ces écrivains qui me fortifient, je dirais.
Avant qu'on retrouve ces textes dont vous aviez parlé et que vous aviez lu à votre leçon de cinéma, je crois que vous avez voulu faire un petit intermezzo où vous allez lire un abécédaire écrit par Dino Risi et qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Les visiteurs de Cannes ». Vous pouvez nous dire pourquoi, peut-être ?
Oui, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Les visiteurs de Cannes », très beau livre, organisé, préparé, conçu par Gilles Jacob. Il a demandé à des cinéastes qui avaient été invités à Cannes de faire des textes ou un livre ou envoyer quelque chose. Je suis un petit peu triste de ne pas y être parce que l'année d'avant, il y avait eu Jacques Audenante. Mais enfin, c'est un très beau livre et les cinéastes qui s'y expriment disent des choses intéressantes. J'ai cru rigolo de piquer là-dedans l'abécédaire de Dino Risi qui est assez savoureux, semble-t-il. Donc, je me propose d'en lire quelques lettres chaque jour. Sa phrase que les Italiens appellent « intermezzo », puisque cette année 2003 est dédiée au cinéma italien avec un immense hommage à Fellini, immense cinéaste. Petit abécédaire du cinéma, lundi, de A à C. Acteur, quelqu'un qui pour être lui-même fait semblant d'être un autre. Acteur grand, le grand acteur est celui qui, à la mort de sa mère, se retient de pleurer. Il trouve que ça ne lui va pas. Auteur, il y a des auteurs qui passent à côté de la comédie comme il y a des comédies qui passent à côté du public. Beauté, toilette portée par quelques femmes pour quelques années. Cache, empêche quelqu'un d'être dans le champ de la caméra. Gassman avait dicté pour lui la nécro suivante. Vittorio Gassman, acteur, n'a jamais laissé personne se mettre entre lui et la caméra. Cascadeur, quelqu'un qui risque sa peau à la place d'un acteur qui est trop payé pour risquer la sienne. Cinéma,
industrie à mi-chemin entre l'horlogerie de précision et la traite des blanches. Cinémascope à la télé, quand on voit seulement le bout du nez de deux acteurs qui se parlent. Critique cinématographique, les critiques de cinéma ont peur de devenir critiques de télévision, c'est-à-dire de voir les films chez eux, assis à côté de leurs femmes.
Retour donc, Agnès Varda, à cette journée du 17 mai 2000 et à votre leçon de cinéma entourée de vos gardes du corps que sont vos livres.
J'en ai même lu et j'ai basé, si vous voulez, cette espèce de monologue où j'essayais de dire comment se fait le cinéma, comment on est cinéaste. Et c'est pas seulement technique, écrire un scénario, le découper, le tourner, c'est un état d'esprit, pour moi c'est ça. Et j'ai pris comme phrase de base un magnifique mot de Luis Buñuel, un maître. Quelque part entre le hasard et le mystère se glisse l'imagination, liberté totale de l'homme. Il dit aussi, l'imagination est notre premier privilège, inexplicable comme le hasard qui la provoque. Et ces deux mots, imagination et hasard, sont quand même des bases de travail pour moi essentielles. Ces citations sont extraites d'un livre de dialogue entre Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière, Mon dernier soupir. Alors, à propos d'imagination, j'avais un autre livre de Bachelard sous la main, La terre et les rêveries du repos. Vous savez, ça a été mon professeur, j'ai pas toujours compris ce qu'il disait, mais je l'écoutais à la Sorbonne avec des oreilles ravies. Et l'esprit peut-être un peu flou parce que c'était difficile. Mais dans ce livre-là, j'ai voulu lire une très petite citation, mais qui indique vraiment le sens que moi je crois donner ou essayer de donner à mon travail. Donc voici Bachelard ce qu'il dit. L'imagination qui raconte doit penser à tout. Elle doit être plaisante et sérieuse, elle doit être rationnelle et rêveuse, il lui faut éveiller l'intérêt sentimental et l'esprit critique. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux ce que devrait être un film pour moi. Aussi, dans cette petite soi-disant conférence, pour que ce soit plaisant et sérieux, j'ai souvent appelé mon petit oiseau. Et alors, c'était pour moi pratique parce que ça faisait des petites pauses, j'avais le temps de me reprendre l'esprit et de me dire de quoi vais-je parler. J'ai essayé de dire que, par exemple, le hasard est mon premier assistant. J'ai dit toujours ça et c'est vrai. Je suis en état de presque de médiumique quand je travaille. Pourtant, je suis sérieuse, je suis équipée, je suis une technicienne. Mais il arrive tout le temps des choses magnifiques. J'en ai eu la dernière preuve justement dans Les Glaneurs et qui était présentée ce matin-là du 17 mai 2000 à Cannes. Beaucoup de témoignages m'étaient arrivés par hasard pendant que je filmais autre chose. J'avais eu une chance extrême, dont la chance majeure quand je suivais les déchets de patates des agriculteurs qui jettent tout ce qui n'est pas formaté, je dirais. En suivant les déchets, en fouillant dans les déchets, j'ai trouvé des pommes de terre en forme de cœur. Et ça m'a semblé, peut-être lourdement, mais vraiment symbolique, que le déchet ait une forme de cœur. Et au fond, tout le film consiste à parler à des personnes qui sont marginales, qui sont hors société, qui vivent en ramassant des choses par terre ou dans les poubelles, et qui ont montré beaucoup de cœur, beaucoup de générosité, et que moi, j'ai essayé d'approcher avec affection et véritable écoute.
Glaner, c'est l'esprit d'intense. J'ai entendu souvent ma mère dire « Finis de ramasser pour pas gaspiller ». Maintenant, malheureusement, ça se fait plus parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu glaner avec mes voisines, avec le blé, comme le riz aussi se faisait avant. Eh bien, voilà, j'avais mon grand tablier. Hein, on glanait, on ramassait le blé, les épis, les beaux épis qu'il y avait. Une journée au soleil, quand il y a des bestioles qui vous piquent, des moustiques, c'est pas trop agréable. Mais en fait, ça nous plaisait. Le soir, on était fourbus et on rentrait avec nos sacs, nos tabliers. Et après, c'était une bonne partie de rire, de boire du café, vous voyez, voilà. Je suis née là, dans ce mas, j'y mourrai.
Pas tout de suite. Allez, on vous laisse y retourner. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous, messieurs, dames. Merci à vous. Je suis confuse parce qu'au moment, vous m'avez eu.
Moi, oui, je toujours gagne tout l'année. Parce que moi, je me rappelle de ça, quand j'allais faire ça avec ma grand-mère et mes frères et mes sœurs.
Dans un temps, on le faisait. Les gens, ils le ramassaient parce qu'il n'y avait pas à manger pendant la guerre. Ils allaient taper du grain, ils faisaient de la farine pour faire du pain.
Maintenant, on ne grappille plus, on ne glane plus pour manger. Il y en a encore quelques-uns, comme les gens qui glanent le maïs.
Donc, je parlais du hasard, je parlais de choses et d'autres. J'expliquais que c'était une attitude. Et puis, j'avais envie de faire distraction. J'avais envie d'expliquer que c'est comme quand on écrit un poème. Il ne faut pas se dire qu'on écrit un poème. Et donc, j'ai cité Michaud, qui décrit comme ça comment il essaye d'apprivoiser le poème. Et puis, tac, le poème s'est échappé. Alors, quinquant, comme ça, j'ai parlé de cinéma. Et à plusieurs moments, j'ai eu la sensation très drôle d'une sorte de stéréo virtuel, puisque pendant que je faisais ces monologues plus ou moins facétieux devant un petit auditoire, enfin, c'était plein, mais il y avait Dancer in the Dark. Et j'imaginais en même temps, puisque je l'avais vu le matin, les ballets de Björk dans le train de marchandises, et puis quand elle chante avec Catherine Deneuve dans l'usine, et j'imaginais un peu le bruit et le silence de la salle, et dans cette espèce de situation complètement marginale qui consiste à parler de cinéma au lieu d'en montrer. Je trouvais ça assez rigolo. Je ne sais pas pour quelle raison, j'avais aussi envie de citer La Fontaine. J'avais choisi une fable qui s'appelle La fille, je ne vais pas vous la lire en entier, mais vous savez, c'est amusant comme histoire. Certaines filles un peu trop fières prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouvait trop chétifs, de moitié. Quoi moi? Quoi ces gens-là? L'on radote, je pense, etc., etc. Donc elle raconte, c'était amusant de dire ça à Cannes, parce qu'il y a quand même cette idée qu'ils sont beaux, bien faits, intelligents, qu'ils sont des stars, qu'ils sont bien habillés, tout ça, etc. Donc la belle ne trouve pas d'homme à son goût. Rien n'est assez bien pour elle. Ils sont pas assez riches, ou pas assez beaux, ou pas assez intelligents, ou je ne sais quoi. Alors, évidemment, fin de la fable. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle se sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choqués et déplaire. Puis, sans sorte de phare, ses soins ne purent faire qu'elle échappât au temps cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que n'est cet avantage pour les ruines du visage? Sa préciosité changea alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru. Et ce truc est amusant parce que Cannes est aussi le lieu quand même de la beauté éclatante, de la beauté mise en valeur. Je voudrais faire une parenthèse d'ailleurs sur toutes ces jolies jeunes femmes qui sont patronnées par une grande marque de parfum avec un slogan que je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je le vaux bien? Parce que je la vaux bien? Je ne comprends même pas qu'on ait pu lancer un slogan qui n'a pas de sens. Qu'est-ce qui vaut quoi? Une fille vaut un parfum? Une fille vaut un phare vaut une fille, je ne sais pas. En tout cas, il est certain que la beauté et la jeunesse sont mises en valeur. Et c'est assez amusant de penser que, bon, on sait bien que l'âge abîme ses beautés, détruit, que les visages se creusent ou se gonflent ou je ne sais quoi. Et que c'est une des luttes des comédiennes, même les plus intelligentes, de tenir le coup, comme on dit. Il y a des cas exceptionnels, hein, comme Daniel Darieux ou Anouk Aimée. Mais enfin, dans l'ensemble, il y a quand même... Moi qui ai vu, et c'est ça, moi qui ai vu, je ne sais pas combien de festivals, puisque la première fois que je suis venue, c'est en 55. Ça va faire bientôt 50 ans que je vais, pas chaque année, mais souvent, et que j'ai vu certaines jeunes gloires qui reviennent, et qui reviennent 10 ans après, et 20 ans après, et 40 ans après. Je parle même pas de moi, parce que moi je suis une technicienne derrière la caméra, mais de celles qui sont devant. On les voit s'abîmer, lutter, en même temps être extraordinaires, parce que l'âme qui les habite continue à leur donner cette énergie et cette, ce désir de plaire qui est une des bases du désir de jouer, homme ou femme. Donc j'avais cru bien de lire cette petit bout de fable de La Fontaine sur une femme qui est trop difficile et qui a de la peine à trouver un mari. Laissons parler l'oiseau. Voyez comme il est gentil cet oiseau, il chante mais pas trop longtemps. Il est juste une petite pause, une petite réflexion.
On a beaucoup parlé de vous comme une passeuse et vous n'aviez pas l'impression que vous aviez quelque chose vraiment à transmettre à des étudiants de cinéma sur votre métier ?
Oui, je suis d'accord, je transmets, je suis une passeuse, je suis même une entremetteuse, j'allais dire, puisque le glaneur est entièrement fait et les spectateurs m'en sont reconnaissants de leur avoir fait connaître des gens à qui ils n'auraient pas parlé. Je suis un petit peu médiumique, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord de raconter comment mon expérience peut inspirer, à défaut d'enseigner les autres. Et c'est le mot de leçon que je déteste. Je ne veux pas être une donneuse de leçons. J'ai toujours pensé que faire du cinéma était une façon d'affirmer qu'on peut transmettre des émotions, des idées, qu'on peut susciter de l'intelligence et de la réflexion. Et que, et je vais le reprendre pour terminer mon petit blabla d'aujourd'hui, je vais reprendre ces mots tellement simples de Bachelard qui résument ce qu'il faudrait faire, ce que je sens qu'il faudrait faire, en sachant que tout commence par l'imagination. L'imagination qui raconte doit penser à tout. Elle doit être plaisante et sérieuse. Elle doit être rationnelle et rêveuse. Il lui faut éveiller l'intérêt sentimental et l'esprit critique. Je voudrais que mes films soient ainsi faits, qu'ils inspirent cela aux spectateurs, le plaisir et la réflexion. C'est vrai que les films que j'aime le plus sont ceux où je suis très émue et quand même que ce film me donne à penser. Je les recherche partout, au cinéma, au Festival de Cannes, quand je vois des films. Je ne sais pas si cette année j'aurai beaucoup le temps d'en voir. Mais c'est amusant de parler cinéma, comme je le disais dans mon petit texte de présentation de cette conférence de l'an 2000. Parler de cinéma est toujours un plaisir.
Merci Agnès Varda. On vous retrouve demain où on parlera de vos festivals, c'est-à-dire les vôtres et ceux de Jacques Demy.
Merci Antoine Guillot. Mon oiseau vous remercie.
À voix nue. Réalisation Doria Zénine, Marie-Christine Clauset, Philippe Baudouin. Coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Agnès Varda en 2003.